Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez
du
pour
Père
nous.
Et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
Pourquoi ces saints-là et pas les autres?
Pourquoi? Parce que saint Thomas d'Aquin, c'est le patron de la théologie.
Ben, tu peux dire tous les saints du siècle, il est pour lui.
Alors, nous continuons dans ce cours sur l'encyclique du 15 avril 1905 de Saint Pédis, Acer Bonimis, sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. Donc c'est une espèce de conclusion, je vous ai expliqué ça la dernière fois, une conclusion de tout le cours sur le modernisme, sur la nécessité justement cette fois-ci d'étudier pour lutter contre le modernisme. Alors avant que j'oublie, mercredi prochain c'est le jour de Noël, le 25 décembre, donc évidemment il n'y aura pas de cours, puisque j'ai la messe de minuit, la messe de 10h, la messe de 18h, et je ne vraiment pas le temps de faire un cours en plus. Donc le prochain cours aura lieu le premier mercredi du mois de janvier. Donc pas de cours mercredi prochain. Alors, je vais reprendre rapidement ce qu'on a déjà vu avec cette encyclique, donc qui est facile. Les encycliques sont plus ou moins difficiles. Nous avions déjà expliqué que l'encyclique de Pachendit est une des plus difficiles du magistère. C'est là, au contraire, très facile. Je répète les phrases clés du début de l'encyclique. Nous croyons qu'il faut adhérer, dit Saint Pédis, 1905, donc on est juste avant la grande condamnation du modernisme. Nous croyons qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et leur faiblesse avec les maux si graves qui en résultent principalement à l'ignorance des choses divines. Bon, il faut toujours revenir aux bases. Donc, je reprends le même système que j'ai toujours suivi depuis que je donne des cours. Au début, je remets un petit peu le train sur les rails, on réaccroche les wagons à la locomotive parce que les gens oublient tout. Donc il faut toujours recommencer, au moins recommencer à remettre les gens dans le cours. Donc n'oubliez pas que l'étude est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre l'étude et la prière. L'étude doit alimenter la prière. Monseigneur Lefebvre nous l'avait dit très souvent au séminaire, c'est une des phrases que j'ai jamais oubliées de Monseigneur Lefebvre, celui qui m'a formé. Deux amours qu'un prêtre ne doit jamais perdre, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Il nous disait, si un prêtre perd l'amour de l'étude, il va perdre l'amour de la prière. S'il perd l'amour de la prière, il va perdre l'amour de l'étude. Donc il faut les deux. On le voit très bien, dans une des raisons des catastrophes actuelles, c'est que les prêtres modernes n'étudient plus la doctrine traditionnelle, et surtout ils ne prient plus. Ils n'ont plus le bréviaire qui a été supprimé par le pape, Paul VI. Il n'y a plus de méditation en général, la plupart ne disent plus le rosaire, et donc il n'y a plus le réservoir de la prière. Et comme il y a un lien entre ces systèmes des vases communicants, imaginez deux réservoirs qu'on remplit, il y a une communication entre les deux. D'accord? Donc si le réservoir de prière est plein, le réservoir de l'étude sera plein. Si le réservoir de l'étude est plein, il ne peut pas y avoir un réservoir d'étude qui est plein sans que le réservoir de prière soit plein. Il faut les deux à la fois. Vous voyez? Et donc, ça c'est très très important. Pourquoi? Ça vient du péché originel. Il faut encore une fois que les gens comprennent bien ces choses-là, parce que c'est une belle chose de connaître son catéchisme, mais il faut savoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. Parce que quand je demande aux gens, pourquoi l'étude est tellement nécessaire? Oh bon, comme ça pour utiliser notre intelligence. Mais non, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que notre âme, qui est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu par l'intelligence et de le posséder par la volonté, a un certain nombre de pouvoirs, bon, des capacités, si vous voulez. Bon, et une des puissances, ce qu'on appelle les puissances de l'âme. Bon, il y a l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. L'ignorance pour atteindre, pour connaître le vrai. Pardon, je reprends. L'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. L'intelligence pour connaître le vrai, puisque l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. La volonté pour... je reprends. L'intelligence pour connaître le vrai, savoir qu'il y a un vrai, que le vrai existe, la vérité existe. Après, la volonté pour l'atteindre, l'irascible pour lutter contre les obstacles qui vont se rencontrer dès qu'on se met à la service du bon Dieu, et concupiscible pour désirer les choses de façon raisonnable. Bon. Et le péché originel va attaquer tout ça, ce qu'on appelle les quatre blessures.
Les quatre
blessures. Il y a l'ignorance, la faiblesse, la malice et la concupiscence. Eh bien, la blessure qui va attaquer l'intelligence, c'est-à-dire qui va rendre l'intelligence de plus en plus faible pour qu'elle puisse atteindre le vrai et d'abord découvrir le vrai puis l'atteindre avec la volonté, d'ailleurs le péché originel va travailler sur cette intelligence avec la blessure d'ignorance justement. La blessure d'ignorance va travailler sur l'intelligence et la blessure de malice va travailler sur la volonté. Ensuite, contre l'irascible, il va y avoir la faiblesse, et contre le concupiscible, la concupiscence. Tout part des quatre blessures. C'est parce qu'il y a quatre blessures du péché originel qu'on a impérativement besoin de prier. Pourquoi ? Parce que par la prière, on va recevoir les grâces dont on a besoin, et notamment par ces grâces, on va recevoir les vertus qui nous permettent de lutter contre ces conséquences. Bon, pour lutter contre la... On va voir, si vous voulez, les quatre vertus cardinales. De prudence, de justice, de force et de tempérance. C'est des choses que j'ai déjà expliquées 25 000 fois, mais c'est ça le drame, c'est qu'à chaque fois que je pose des questions aux gens qui assistent au cours, pourquoi les quatre vertus cardinales, ils me regardent les yeux ronds, ils me disent, c'est bon, on sait pas. Pourtant, j'ai expliqué, je ne sais pas combien de fois. Il faut constamment répéter. On est comme des enfants. On dit que les enfants, il faut répéter 70 fois pour que ça rentre. Avec les adultes, je me demande si vous pas un peu plus. Bon. Donc, pour que l'intelligence fonctionne normalement, il faut lutter contre la blessure de l'intelligence. La blessure de l'intelligence, c'est l'ignorance. Contre cette blessure de l'intelligence, qu'est-ce qu'il faut ? Il va falloir une vertu cardinale spéciale qu'on appelle la vertu de prudence. Quand on est ignorant du chemin qu'on va prendre, on ralentit, on est prudent. En voiture, vous arrivez à un croisement, vous ne savez pas quelle route il faut prendre, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par lever le pied d'accélérateur pour ralentir, prendre le temps de savoir où je dois aller. Donc, pour lutter contre l'ignorance, il faut la vertu, la vertu cardinale de prudence. Pour lutter après contre la malice de la volonté, ça suffit pas de savoir où est la vérité. Les gens qui savent très bien où est la vérité. La vérité, c'est le bon Dieu. Ah, très bien, le bon Dieu, c'est le vrai. C'est vrai que le bon Dieu, c'est le vrai, puisqu'il est Dieu. Il faut qu'on l'atteindre. Comment on atteint le bon Dieu? On atteint le bon Dieu en lui obéissant, évidemment, donc en obéissant à sa loi. C'est là où la volonté va travailler pour nous permettre d'atteindre ce qu'on cherche à obtenir. On cherche à obtenir le vrai par l'intelligence. Donc il faut utiliser maintenant notre volonté pour choisir le meilleur chemin pour atteindre cette vérité. Et c'est là où la liberté intervient. La liberté, c'est pas du tout le choix. Le pouvoir de faire ce qu'on veut, c'est pas du tout ça. La liberté, c'est le choix des meilleurs moyens pour atteindre le vrai, atteindre ce que je cherche, la vérité. Donc pour atteindre la vérité, il faut que j'utilise la volonté. La volonté, elle va être blessée par la malice. Et donc là, il va falloir la vertu de justice. Donc, on voit très bien, justice pour contrôler la volonté et la vertu de prudence pour contrôler l'intelligence. Si l'intelligence est de nouveau sous le contrôle de la raison et de la foi, à ce moment-là, on peut plus facilement obtenir, savoir où est le vrai et en enclenchant la volonté, on va pouvoir atteindre ce vrai. Voilà pourquoi la prière est absolument fondamentale. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Si j'arrête d'étudier, c'est ce qui s'est passé, c'est le drame des années 60, les prêtres ont arrêté d'étudier. Pourquoi ? Parce que ça correspondait à l'arrivée de la télévision. C'est ça la raison. La télévision est arrivée autour des années 60. On est juste après la mort du Papidou, qui est mort en 1958. La télévision est arrivée à ce moment-là. D'un seul coup, les télévisions, Monseigneur Lefebvre qui nous a expliqué ça, je ne sais pas combien de fois, et je l'ai expliqué moi-même plusieurs fois au cours, la télévision est arrivée aux années 60. Comme par hasard, juste à la mort du Papidou. À ce moment-là que la télévision est arrivée, autour des années 60, 61, 62. La télévision est arrivée à ce moment-là, elle est rentrée d'un seul coup dans pratiquement tous les séminaires, tous les couvents. Et les prêtres, les moines, les religieuses ont été attirés par cette télévision comme les mouches sont attirées par une lumière à la nuit. Et tout le monde s'est précipité sur la télévision parce que c'était facile, il y avait le petit film du soir, les nouvelles, etc., le journal du soir, et tout a commencé à tourner avec ça. Du coup, les gens ont commencé à regarder la télévision. Les prêtres, les jeunes prêtres surtout, c'était une catastrophe dans les séminaires. Dans les séminaires, les séminaires sont commencés à se tourner vers la télévision. Et évidemment, tout le temps qu'ils passaient devant la télévision, ils n'avaient plus le temps pour la prière. C'était un temps qu'ils n'étaient plus passés, pour étudier et prier. Donc la télévision a coupé une grande partie du temps de l'étude. Comme l'étude a diminué, qu'est-ce qui s'est passé? La prière a diminué. L'étude a fini par complètement disparaître. Et a été remplacé par la télévision. La télévision a pris la place de l'étude et donc les gens n'étudient plus. Je prends toujours le même exemple. Le livre le plus important pour le prêtre au niveau de l'étude, c'est la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Quand je parle avec des prêtres modernes, je leur demande quand est-ce que vous avez ouvert la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin pour la dernière fois, ils me regardent avec des yeux ronds et ils me reconnaissent, monsieur l'abbé, je ne l'ai pas ouvert depuis mon séminaire. C'est ça le problème. Donc, comme l'étude n'est plus là, du coup, première conséquence, l'intelligence va s'ouvrir à toutes les erreurs, parce qu'il n'y a plus le garde-fou de l'étude. Quand vous étudiez les actes du magistère, par exemple, vous étudiez à fond les grandes encycliques de Saint-Pie X de condamnation du modernisme. Vous étudiez à fond les grandes encycliques de Pie IX, par exemple, contre le libéralisme. En étudiant ces encycliques, vous mettez des garde-fous sur votre intelligence. Vous voyez, on est sur une route dangereuse, il y a des virages partout, des précipices de tous les côtés, il y a des garde-fous sur le côté. Ce qui fait que si vous vous endormez au volant, ou vous ratez un virage, le garde-fou va vous empêcher de faire tomber la voiture dans le précipice. Bon. Mais c'est pareil sur le plan intellectuel. L'étude, si vous étudiez les magistères de l'Église, cette étude du magistère de l'Église va vous permettre de protéger votre intelligence pour éviter que l'intelligence soit contaminée par les erreurs. Bon. Si j'arrête d'étudier, j'ai plus ces protections, j'ai plus les garde-fous, et du coup, la voiture tombe dans le ravin. Et c'est exactement ce qui s'est passé autour des années 60. Parce que les gens me posent souvent la question, monsieur l'abbé, comment se fait-il que d'un seul coup, en quelques années, autour des années 60, avec l'arrivée de la télévision, comment se fait-il que les gens arrêtaient d'étudier? La réponse, elle est là. Ils ont arrêté d'étudier parce que la télévision a pris la place, et donc l'intelligence s'est retrouvée démunie par rapport à toutes les erreurs du modernisme, toutes les erreurs du libéralisme et du monde moderne. Et ça correspond, tout ça, c'est arrivé en même temps. Le démon sait très bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qui est arrivé juste à ce moment-là? Donc, la protection, les rails de sécurité de chaque côté de la route ont disparu parce que les gens n'étudiaient plus. Conséquence, ils n'avaient plus la protection de leur intelligence. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment-là, est arrivé en 62, Vatican II. Vatican II, c'est 62-65. Comme il n'y avait plus la protection de l'étude traditionnelle, de l'étude du magistère, il n'y avait plus de protection, ils ont gobé toutes les erreurs de Vatican II sans rien dire, parce que justement, cette protection n'existait plus. Deuxième conséquence, très importante, s'il n'y a plus d'études, comme il y a un lien entre l'étude et la prière, les gens arrêtent d'étudier, conséquence, ils arrêtent de prier. Ils arrêtent de prier. Et donc, la prière va disparaître. On perd l'amour de l'étude. On perd l'amour de la prière. Alors là, on est ouvert à toutes les chutes possibles et imaginables. Et c'est exactement ce qui s'est passé autour des années 62-65. Vous voyez, tout ça, on voit très bien comment tout est organisé par le démon. La télévision a amené les gens à arrêter d'étudier, arrêter de prier. La conséquence était l'arrêt de la prière. Monseigneur Lefebvre nous disait, dans les séminaires de l'époque, les années 60, dès que la télévision est arrivée, la prière du soir a été changée parce qu'il fallait sauver le petit journal du soir ou les nouvelles du soir. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, avec Monseigneur Lefebvre, avec parfaitement raison, dans les séminaires d'école où j'ai été formé, dans les constitutions de la fraternité, Monseigneur Lefebvre a dû rajouter une phrase qui disait « pas de télévision dans nos maisons ». Pour ça, je ne voulais pas la télévision dans la maison. Bon, parce que justement, il avait compris le danger de ces choses-là. Et c'est la télévision, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la télévision qui a remplacé l'étude traditionnelle. Comme il n'y avait plus de base de la prière a sauté. Ça a correspondu aussi à l'arrêt du bréviaire, parce que ça a été détruit par Paul VI. On a arrêté plus de méditation, demandé aux prêtres modernes, est-ce que vous faites une méditation tous les jours? Ils vont vous regarder encore une fois avec des yeux ronds et vont vous dire que non. Et donc il n'y a plus d'études, il n'y a plus de prière, et c'est les fondations même du sacerdoce qui sautent. Voilà pourquoi il y a tellement de prêtres qui se cassent la figure aujourd'hui, parce que justement, il manque l'essentiel. Et ce que je vous dis sur les prêtres, ceci voilà pour les fidèles. Que les fidèles ont besoin d'étudier, les fidèles ont besoin de prier. Regardez les difficultés qu'ont même nos fidèles, même des braves gens que je connais bien, avec l'étude. On n'a pas le temps, disent-ils. Ils ont le temps pour faire telle chose, mais ils n'ont pas le temps pour étudier. Ils n'ont pas assez de temps pour prier. Vous voyez, c'est pour ça que le 21 décembre, je commence à la chapelle de Tanus. On va commencer une espèce de petit tiers-ordre, en quelque sorte, l'esprit du tiers-ordre, pour pousser les gens qui veulent prier davantage, qui veulent étudier davantage, qui ont compris le danger de cet arrêt d'étude et cet arrêt de la prière, pour les pousser à se remettre à la méditation, à faire un petit peu comme les réunions qu'avait organisées le Père Vallée, des réunions d'anciens retraitants, pour un peu comme un feu qui est en train de s'éteindre, qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on fait? On prend une bûche et on met la bûche dans le feu pour que la flambée, le feu reprenne vigueur. C'est un peu la même chose. Vous voyez? Alors, donc, je reprends le texte de Saint Pédis. Tous ces mots graves résultent de l'ignorance, principalement de l'ignorance, je reprends le texte, nous croyons qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et de leur faiblesse, avec les mots si graves qui en résultent, à l'ignorance des choses divines. On ne connaît plus notre catéchisme, on ne connaît plus la somme théologique de Saint Thomas, on ne connaît plus les pères de l'Église, on ne connaît plus tous ces moyens de sécuriser la route qui nous mène au ciel.
C'est-à-dire le catéchisme, tu l'as fait au catéchisme.
Mais on l'a fait comme enfant.
Après, tu le relis.
Eh bien oui, mais c'est ça l'erreur. Parce que si vous étudiez comme enfant le catéchisme, et qu'après vous ne l'étudiez plus du tout, il y a un catéchisme pour les enfants, il y a un catéchisme pour les adolescents, il y a un catéchisme pour les adultes. Le catéchisme doit être adapté à l'âge de la personne qui l'étudie. Un enfant de 5 ans, on ne va pas lui apprendre le catéchisme, comme on ne va pas prendre le catéchisme de Saint Pédis pour adulte, pour un enfant de 5 ans, c'est évident. Un enfant de 5 ans, on lui donne des bases. On lui apprend à faire un signe de croix, on lui apprend les prières et les prières élémentaires, on apprend le grand mystère, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Puis après, avec l'âge qui grandit, il ne faut pas croire, ça c'est une énorme erreur qui est commise par beaucoup de parents, les enfants font le catéchisme jusqu'à 10-12 ans, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Imaginez quelqu'un qui dise, moi je sais lire et écrire, ça me suffit, je ne vais pas plus loin. Mais non, il faut étudier pour maintenir son intelligence à flot. Je continue avec le texte de Saint Pédis. Nous affirmons, dit Saint Pédis, qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel, c'est l'enfer, doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. Donc, à cette sainteté, à cette pudeur qui réfrène les passions, il faut donner comme fondement l'intelligence des choses divines. Donc, si j'étudie, si je connais ma foi, si je connais mon catéchisme, je peux plus facilement prier. Pourquoi les deux choses sont nécessaires? Parce que si vous avez que la connaissance, vous avez l'étude sans la prière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber dans l'orgueil. Vous voyez? S'il n'y a que la prière sans l'étude, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans l'angélisme. On va avoir une espèce de piété creuse sans soutien doctrinal. Il faut les deux. Il faut la canne pour marcher, c'est l'étude, mais il faut en même temps le cœur pour aimer le bon Dieu. Et ça, c'est la prière. Donc, il faut la prière et l'étude. Donc, je continue avec le texte de Saint Pédis. Quand la dépravation des mœurs et la disparition de la foi par suite de l'ignorance se trouvent réunies, il n'y a plus guère de remède et la route est ouverte pour la cause finale. Vous voyez, dépravation des mœurs, on est en plein dedans aujourd'hui avec la culture woke. Disparition de la foi, regardez ce qui se passe depuis Vatican II, et l'ignorance. À ce moment-là, la route est ouverte pour la route finale. Et c'est la raison pour laquelle, dans le monde moderne, les gens ont perdu la foi. Le premier rôle, donc, de ceux, dit Saint Pédis, qui sont préposés d'une façon quelconque au gouvernement de l'Église, est d'apprendre aux fidèles les choses saintes. Nous affirmons qu'une grande... Voilà. On continue dans ce texte essentiel de Saint Pédis, que j'ai déjà expliqué. Saint Pédis dit, c'est pourquoi le Saint Concile de Trente, traitant des pasteurs des âmes, déclare que leur premier et principal devoir est d'instruire le peuple chrétien. Il leur ordonne donc, au moins le dimanche et jour de fête solennelle, de parler au peuple sur la religion. Au saint temps de l'Avent et du Carême, ils doivent le faire chaque jour, au moins 3 fois par semaine.
De quoi ?
Au saint temps de l'Avent et du Carême, les prêtres doivent faire cet enseignement chaque jour, au moins 3 fois par semaine. Ce n'est pas tout. Il ajoute que les curés sont tenus, au moins les dimanches et fêtes, par eux-mêmes ou par d'autres, d'instruire les enfants dans les vérités de la foi, de former à l'obéissance envers Dieu et leurs parents. Les former à l'obéissance envers Dieu et leurs parents. Il veut qu'on instruise de leurs vertus ceux qui doivent y participer, en employant un gage facile et usuel. Deux principales obligations ont été imposées donc par le Concile de Trente, ce grand concile du XVIe siècle contre le protestantisme. Premièrement, adresser au peuple les jours fériés des discours sur les choses divines. Deuxièmement, apprendre aux enfants et à tous les ignorants les éléments de la loi divine et de la foi. Mais certains prêtres, dit Saint Pédis, écoutez bien, désireux de diminuer leurs besoins, voudraient se persuader que le prône, ce qu'on appelle le prône, c'est le sermon du dimanche. Le sermon du dimanche peut tenir lieu de catéchèse. Il suffit de réfléchir pour voir que c'est une erreur. Donc Saint Pédis explique bien, le sermon du dimanche ne suffit pas.
C'est un rappel.
Hein ?
C'est plutôt un rappel.
C'est un rappel, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est pas avec un sermon, surtout dans le monde moderne, ils font des sermons de 5 minutes. C'est pas avec 5 minutes que vous allez lutter contre l'influence délétère du monde moderne pendant toute la semaine. C'est impossible. Même si la belle fille prêche une demi-heure, je prêche souvent 25 minutes, parfois une demi-heure, c'est vrai que c'est un peu long. Mais on a absolument besoin de ça. Ça suffit pas. C'est pour ça que j'ai rajouté le cours de doctrine. Je pense que si les fidèles, et ceux qui me font confiance, si vous voulez, écoutent la messe du dimanche, soit en vidéo, soit en réalité pour ceux qui peuvent venir ici, ils écoutent les sermons du dimanche, ils ont déjà quelque chose. Si vous rajoutez à ce sermon du dimanche qui dure entre 20 minutes et une demi-heure, vous rajoutez le cours du mercredi soir qui dure 1h30, à ce moment-là, vous avez une demi-heure plus 1h30, vous avez 2 heures d'études par semaine. Là, c'est plus facile de conserver la foi. D'accord ? Alors, attention, dit Saint Pédis, le but de l'enseignement, c'est pas de former les gens sur le plan simplement intellectuel, c'est la réforme de vie. Donc, si j'enseigne, j'enseigne le catéchisme aux enfants, j'enseigne le catéchisme aux adultes, je donne un sermon le dimanche, je donne un cours de catéchisme le mercredi soir à 19h pour obtenir la réforme de vie. C'est-à-dire que les gens changent de vie et retrouvent l'état de grâce. C'est ça qui est le plus important. Si on ne saurait attendre une moisson, dit Saint Pédis, d'une terre qui n'aurait pas reçu de semences, comment espérer des générations ayant des bonnes mœurs si elles n'ont pas été à temps instruites dans la doctrine chrétienne? De là, nous devons conclure que si la foi s'est alanguie de nos jours au point d'être presque mourante chez beaucoup, c'est que le devoir de l'instruction religieuse est accompli trop négligemment ou complètement omis. Alors, nous en étions arrêtés là. Donc, Saint Pédis va terminer son encyclique, donc cette encyclique de 1905, Acerbo Nimis, par une liste de conseils. Le nom de l'encyclique, c'est Acerbo Nimis, 1905. Donc, on est... 1905, c'est quoi? C'est les années capitales pour la France. 1905, on est en plein dans le ministère Combes. Ministère Combes, c'est la séparation entre l'Église et l'État. C'est la persécution ouverte contre les ordres religieux, contre les écoles chrétiennes, contre les couvents. Le gouvernement va envoyer les policiers pour sortir manu militari des couvents et des monastères les religieuses, les moines, les prêtres, etc. C'est le début de la laïcisation forcée de la France. Et on en est en plein dedans aujourd'hui. La laïcisation, c'est quoi? La laïcisation, c'est la destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire dans le monde moderne parce que, justement, la foi et la politique sont complètement séparées. Les politiciens d'aujourd'hui le disent tout le temps, l'Église n'a plus rien à voir avec la politique. Vous vous rendez compte, les conséquences sont énormes parce que ça veut dire que le commandement de Dieu, ça me regarde en matière politique. Dieu a dit « tu ne mentiras pas », mais en politique, vous comprenez, on peut s'en passer. C'est pour ça que les politiciens sont des menteurs invétérés. Et il faut croire les promesses électorales. Ceux qui croient les paresseurs, on va accepter les promesses électorales sont faites pour ceux qui veulent bien y croire. Mais n'importe qui a un peu de bon sens sait très bien que les promesses électorales n'existent pas. Sauf certaines exceptions, entre autres comme Trump. Trump aux États-Unis, quand il fait une promesse électorale, il dit tiens, bon, ça c'est une exception, heureusement.
Qui?
Trump. Parce qu'il avait promis de faire un mur entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher l'immigration sauvage, il l'a fait. Bon, Biden a essayé d'empêcher ça. Mais heureusement que Trump revient pour pouvoir continuer ce mur et protéger les emplois, justement, des États-Unis, pour que l'immigration sauvage qui vient d'Amérique centrale ne vienne pas prendre tous les boulots des Américains. C'est normal, c'est du bon sens élémentaire. D'accord ? Alors, je reprends, on est à la fin de l'encyclique. Il y a six points essentiels sur lesquels je vais insister lourdement. Saint Pédis, si vous voulez, après avoir expliqué la nécessité de l'étude pour lutter contre le modernisme, si vous voulez, va donner des points pratiques. Je répète les deux premiers qu'on a déjà vus ensemble. Tous les curés en général, tous ceux qui ont charge d'âme. Alors, qui a charge d'âme? Les parents. Les parents, ils ont charge d'âme. Hein? Les parents qui ont des enfants, ils ont charge d'âme. Donc, quand le prêtre, quand le Saint Pédis adresse cette encyclique aux curés et à ceux qui ont charge d'âme. Ça veut dire c'est une encyclique pour les prêtres, les curés et les parents. D'accord ? Et tous ceux qui ont charge d'âme, professeur par exemple. Tous les curés en général, tous ceux qui ont charge d'âme, au jour du dimanche et des fêtes de l'année, sans en excepter aucun, c'est-à-dire dimanche et fêtes d'obligation. Fêtes d'obligation, rappelez-vous, il y en a quatre en France. Ascension, Assomption, Toussaint et Noël. Noël qui arrive. Bon. Donc, je répète, tous les curés, en général, tous ceux qui ont charge d'âme au jour de dimanche et des fêtes de l'année, sans en excepter aucun, pendant une heure entière, enseigneront, d'après un petit livre de catéchisme, aux enfants des deux sexes ce qu'ils doivent croire et pratiquer pour faire leur salut. Nécessité absolue, donc, pour les curés, les prêtres, les parents qui ont charge d'âme, donc qui ont des enfants en âge d'étudier, de passer une heure par semaine, dit Saint Pédis, pour expliquer le catéchisme. Donc, il ne faut pas dire, ça encore c'est une autre erreur qui a fait des catastrophes autour des années 60, les parents disaient, j'envoie mes enfants au catéchisme, donc j'ai rempli mon devoir. Non. Vous envoyez vos enfants au catéchisme, il faut vérifier que votre enfant a bien compris le catéchisme, il faut vérifier que le curé a fait son boulot, parce que ça encore une fois, ça a été une des causes de la laïcisation à marche forcée de la France et la destruction de la foi catholique en France, c'est que les gens ont fait confiance, la plupart des catholiques autour des années 60 ont fait confiance à leur curé, ils ont envoyé leurs enfants dans les écoles catholiques, en disant comme ça, je suis débarrassé, le curé s'en occupe, dans ces écoles catholiques, ils ont des cours de doctrine, ils ont des cours de catéchisme, donc je suis dispensé de mon travail de parent dans ce domaine. C'est faux! Les parents auraient dû vérifier, ils n'ont pas vérifié. Résultat des courses, autour des années 70, ils sont aperçus avec stupéfaction que leurs enfants n'avaient rien appris au catéchisme et qu'ils avaient tous perdu la foi. C'était trop tard. Donc, devant des parents de vérifier que le catéchisme est fait, et enseigner quand vous êtes dans des bonnes écoles, dans des écoles modernes, il n'y a plus de catéchisme, il n'y a plus rien. Donc, les parents ont le devoir d'étudier le catéchisme pour pouvoir enseigner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si les parents ne connaissent pas leur catéchisme, comment vont faire pour l'enseigner ? Donc il faut que les parents connaissent leur catéchisme pour pouvoir l'enseigner aux enfants, c'est du bon sens. Bon, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nemo dat quod non habet, dit Saint Thomas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc nécessité de vérifier que le catéchisme est donné, de vérifier que l'enfant a compris le catéchisme, et surtout de donner l'amour du catéchisme aux enfants, c'est le plus difficile. C'est le troisième point le plus difficile, donner l'amour du catéchisme aux enfants. Donner un exemple pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. D'obliger vos enfants à aller à la messe tous les dimanches. Première étape, leur faire comprendre la messe. Deuxième étape, troisième étape, leur faire aimer la messe. Quelle est l'étape la plus difficile? La troisième. Parce que vous pouvez envoyer vos enfants tous les dimanches à la messe, en leur disant, tu dois aller à la messe, tu dois aller à la messe, tu dois aller à la messe, parce que c'est le dimanche. Vous pouvez essayer de leur expliquer ce que c'est que la messe à partir du catéchisme, mais si vous n'avez pas réussi à leur faire aimer la messe, vous avez perdu votre temps. Parce que dès que l'enfant va avoir 18 ans, qu'il aura quitté le nid familial, s'il le quitte très vite après, malheureusement, eh bien, il va tout envoyer promener parce qu'il n'a pas l'amour. Il n'a plus l'amour de la messe. Vous voyez, ces choses sont absolument fondamentales parce que c'est ça qui explique la perte de la foi en France. La France est devenue un pays de païens. Bien avec ce qui est. La France est devenue un pays païen. La France est devenue un pays avec même pas 2% de pratiques religieuses en France. Pourquoi ? Parce que l'amour de la prière a disparu, l'amour de l'étude a disparu, et puis tout simplement le magistère de l'Église n'est plus enseigné. Hein ? Regardez les encycliques de Bergoglio à Rome, ils parlent des migrants, ils parlent du réchauffement climatique, ils parlent de tout ce que vous voulez, sauf de l'essentiel, à savoir le salut des âmes. D'accord ? Donc, premier point. Me dire, monsieur Hervé, vous avez déjà expliqué tout ça la dernière fois. C'est vrai, mais j'y reviens, parce que c'est tellement important. Donc, devoir d'État grave pour tous les curés et tous ceux qui ont charge d'âme, donc je répète, les curés et aussi les parents, d'enseigner au moins à leurs enfants, pendant une heure complète, aux enfants des deux sexes, le catéchisme. Que les enfants connaissent leur catéchisme, que les enfants comprennent leur catéchisme, que les enfants aiment leur catéchisme. Mais là, encore une fois, il y a un énorme travail à faire pour apprendre aux parents à enseigner le catéchisme. Beaucoup n'y arrivent pas. Pour les tout-petits, on prend par exemple des images. C'est pour ça qu'il y a un très bon catéchisme, c'est que la Miche de Pain, c'est tout l'ancienne, les premières éditions, la Miche de Pain que j'ai moi-même étudié quand j'étais gamin pour apprendre mon catéchisme. C'est comme ça que j'ai appris mon catéchisme tout à fait au début. Et je vous remercie maman de m'avoir montré tout ça. Bon, ça a été réédité, mais malheureusement, ça a été réédité déjà avec pas mal de changements. Bon, il y a encore la Miche de Pain existe encore, elle a été rééditée avec des dessins nouveaux. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas repris les dessins anciens, mais je pense qu'il y a aussi des droits d'auteur. Parfois, difficile d'avoir les droits d'auteur pour faire ces rééditions. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait plus de 40 ans sans réédition pour qu'on puisse rééditer sans droit d'auteur. C'est assez compliqué. Donc, nécessité d'enseigner le catéchisme en une heure. Donc, les gens qui m'écoutent en ce moment sur Internet, qui ont des enfants, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous vérifiez que vos enfants aient une heure de catéchisme par semaine? Dites, monsieur Abbé, ils sont dans des écoles traditionnelles, donc ils ont ce catéchisme. Vérifiez qu'ils l'ont compris. Vérifiez qu'ils l'aiment. Vous voyez? Vérifiez qu'ils aiment leur catéchisme. C'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de faire aimer le catéchisme aux enfants, faire aimer la messe aux enfants. Vous voyez? Moi, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, où beaucoup de jeunes venaient à la messe contraints, forcés par les circonstances et tout, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils étaient obligés par leurs parents. Et les parents savaient très bien que dès que l'enfant devenait un adulte, eh bien, s'il n'avait plus justement la bride sur le cou de la part des parents, ils envoyaient tout promener. Et c'est ce qui s'est passé autour des années 60, 70, 80, et les enfants, la France est devenue païenne. Donc, premier devoir d'État, l'enseignement du catéchisme, une heure par semaine. Donc, prenez le catéchisme de Saint Pie X. Je vous conseille beaucoup celui qui a été réédité par l'édition Saint-Rémy, à Gadillac, en Gironde, près de Bordeaux. Monsieur Saguillot a fait du bon boulot de ce côté-là. Il a réédité le catéchisme de Saint Pie X, qui est excellent, un petit livre qui fait une centaine de pages. Vous avez toutes les bases. Bon, toutes les bases, les prières de base et l'enseignement. Qui est sous forme de questions-réponses. C'est Saint Pie X qui l'a fait lui-même en 1910. Parce que la conséquence de cette encyclique, Acerbo Nimis sur l'enseignement de la doctrine chrétienne du 15 avril 1905, 5 ans plus tard, il va publier le catéchisme qu'on appelle le catéchisme de Saint Pie X. Parce que c'est Saint Pie X qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le catéchisme officiel de l'Église. Le catéchisme officiel de l'Église catholique, c'est le catéchisme du Concile de Trente. Bon, le catéchisme du Concile de Trente, c'est 1570. Publié sur ordre de Saint Pie X et préparé par Saint Robert Bernardin ou Saint Charles Borromée, je ne sais jamais lequel des deux, ou les deux à la fois. Donc il y a tout un travail qui a été fait, mais le problème du catéchisme du Concile de Trente, un catéchisme essentiel, c'est un gros pavé, c'est un enseignement pour les prêtres. L'enseignement pour les prêtres, c'est déjà un peu difficile pour des laïcs adultes qui n'ont pas une bonne formation religieuse, qui ont du mal à le lire. Et donc qu'est-ce qu'a fait Saint Pie X? Il va. Donc avant, ce catéchisme était littéralement donné à tous les jeunes prêtres au moment de leur ordination, et ils recevaient en cadeau le catéchisme de Saint Pie X, voilà ce que vous devez enseigner à vos fidèles. Bon, alors Saint Pie X, il a pris ce catéchisme, et il en a fait un petit catéchisme, il l'a réduit en une centaine de pages, même pas 80 pages, sous forme de questions-réponses. Pourquoi? Parce que sous forme de questions-réponses, c'est plus facile à connaître. Et là, il faut obliger les enfants à connaître le par cœur, hein. Hein? Il faut utiliser le par cœur, il faut faire utiliser la mémoire. Les gens n'utilisent plus leur mémoire. Ils veulent quelque chose de ludique tout le temps. Je vois que les jeunes, c'est terrible. Ils veulent des tablettes, ils veulent des téléphones portables, ils veulent des écrans de télévision, ils veulent des écrans de portables, ils veulent des écrans d'ordinateur pour que ça soit amusant. C'est des petits jeux. Ça, c'est la catastrophe des jeux vidéo. Les jeux vidéo, qui sont utilisés dans toutes les familles modernes, hélas, malheureusement, c'est une catastrophe, parce que ça habitue les enfants à n'étudier que si c'est ludique, si c'est amusant. Alors il y a un petit personnage qui bouge dans tous les sens, et puis on est avec la petite souris, et puis il faut attraper les personnages qui bougent. Alors ça m'amuse, je suis. Puis donc on leur demande de prendre un livre, de commencer à étudier à partir d'un bouquin, ils sont capables de le faire. Et là, il y a une énorme responsabilité des parents. Les parents peuvent faire le boulot. Deuxième point. De plus, à des époques fixes de l'année, les curés et ceux qui ont charge d'âme, pareil, donc les parents, prépareront les garçons et les filles par une instruction faite plusieurs jours de suite à bien recevoir le sacrement de pénitence et de confirmation. Donc, il y a préparation à la pénitence, à la confession et à la confirmation. Donc, il faut absolument habituer les enfants à se confesser correctement. Et ça, c'est tout le travail de la mère surtout. Pour les petites filles surtout, et pour les papas aussi, pour les garçons. Et c'est surtout la maman qui s'en occupe, parce que les petits qui vont commencer, moi j'aime beaucoup confesser les petits, quand ils ont déjà 4-5 ans, dès qu'ils sont capables de comprendre ce que c'est qu'un péché, il faut qu'ils se confessent. J'aime pas du tout faire des premières communions qui n'ont pas été précédées par plusieurs confessions. C'est une erreur, à mon avis, que font beaucoup de jeunes prêtres, c'est qu'ils préparent les enfants à la communion, et la veille de la communion, du jour où ils reçoivent le bon Dieu pour la première fois, ils font une confession, les enfants se confessent. Ils se confessent une fois avant la communion, avant le jour de la communion. Du coup, ils n'ont pas eu l'habitude, ils n'ont pas eu le temps de s'habituer à confesser. Moi, j'aime beaucoup que les enfants se confessent 5 ou 6 fois, au moins, avant la première communion. Donc, que les parents les amènent au prêtre. J'ai eu plusieurs fois des enfants de 4 ans confessionnels. Hein. Monsieur l'abbé, il est capable de faire des bêtises. S'il est capable de faire des bêtises, il est capable de se confesser.
Oui, ils savent très bien.
Ils savent très bien. Ils savent très bien, les enfants sont fous. Hein. Les enfants, ils ne sont pas fous. Ils savent très bien que quand ils ont... Maman a dit de pas prendre de bonbons dans la boîte de gâteau, on attend que maman soit partie, et là, on va ouvrir la boîte de gâteau pour se servir. Ils savent très bien qu'ils font une bêtise. Ils savent très bien qu'ils obéissent à la maman, et donc ils savent très bien qu'ils obéissent au bon Dieu. Quand je désobéis à maman, je désobéis au bon Dieu. Quand j'obéis à maman, j'obéis au bon Dieu. C'est ce qu'on explique aux enfants. Donc,
ils peuvent dire, oh ben le bon Dieu, on ne le voit pas.
Oui, oui, mais c'est justement là où intervient l'éducation des enfants, parce que le bon Dieu ne le voit pas, mais la maman, il la voit. Et donc quand la maman dit, tu ne prends pas un gâteau dans la boîte de bonbons, dans la boîte de gâteaux, c'est pour le repas de midi ou c'est pour le goûter, pas avant, je t'interdis d'ouvrir cette boîte avant, et que l'enfant le fait, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il n'est pas fou, il va attendre que la mère soit pas dans la pièce. Donc il sait très bien qu'il fait une bêtise. Il ne va jamais ouvrir la boîte de gâteaux devant sa mère. Il attend qu'elle ne soit pas là, et hop, il ouvre la boîte de gâteau, il monte sur l'escabeau pour ouvrir la boîte de gâteau et servir. Ben c'est pareil avec la confession. Un enfant qui est capable de faire des bêtises comme ça, capable de se confesser. Bon, il me dit, mais c'est des petits péchés. Et alors? Il faut attendre que l'enfant ait commis des péchés mortels énormes pour qu'il se confesse. C'est ridicule. Il faut habituer les enfants. Moi, il m'est arrivé, je me rappelle, une fois, aux États-Unis, j'ai confessé comme ça plusieurs fois des petites filles, des petites sœurs jumelles, dès 3 ans, elles étaient très mûres, elles étaient déjà capables de se confesser. Et je les ai confessées dès 3 ans. Bon, il faut les aider. Et souvent, les parents doivent aider les enfants à préparer leur confession. Parfois, les parents donnent un petit papier de confession à l'enfant qu'ils donnent au prêtre pour qu'il sache un peu ce qui s'est passé. De toute façon, les péchés des enfants, nous, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Donc, ça tourne surtout autour du mensonge et la désobéissance aux parents. Mensonge, désobéissance, parfois petit vol. Parfois des petits vols, mais surtout le mensonge. Hein. La fissure qui fait rentrer pour les enfants le démon dans les âmes, c'est le mensonge. Hein. Le mensonge des enfants, c'est une catastrophe. Bon, il faut bien lutter contre ça. Vous voyez, donc on voit très bien comment la confession fréquente prépare la communion et la confirmation. Donc il faut absolument que les parents le fassent. Et malheureusement, j'ai commis beaucoup de prêtres, hélas, qui n'ont pas compris ça et qui refusent catégoriquement. J'ai connu des prêtres qui refusaient de confesser des enfants de 4 ans. Et ils ont dit, ça ne sert à rien, ils ne commettent pas de péché. Tu parles. Demandez aux enfants s'ils ne commettent pas de péché. Ils savent très bien qu'ils commettent des péchés. D'ailleurs, on le voit tout de suite quand on confesse un petit. On voit si le petit est capable et suffisamment mieux pour se confesser. Il m'est arrivé à des petits qui n'étaient pas encore capables, qui n'avaient pas encore l'âge de raison. Ils n'ont pas encore l'âge de raison, ils ne sont pas capables de s'accuser de péché, parce qu'ils ne sont pas encore responsables de leur péché, parce qu'ils n'ont pas l'âge de raison. Mais dès qu'ils ont l'âge de raison, beaucoup d'enfants ont l'âge de raison à 5-6 ans. Hein. Et puis surtout à l'école moderne, les enfants à 10 ans savent tout. Hein. Tout. Absolument tout, toutes les horreurs, les orgies sexuelles les plus abominables, ils savent tout à 10 ans, parce qu'ils ont pratiquement tous un téléphone portable à 10 ans, et en parlant avec les mauvais garnements de leur école, ils arrivent à tout savoir. Donc il faut absolument confesser les enfants très tôt. Moi j'aime beaucoup confesser les enfants dès qu'ils ont 4-5 ans, ils sont capables de se confesser, on les confesse plusieurs fois avant la première communion. Et après, on les confesse encore plusieurs fois avant la confirmation. Donc, il y a tout un travail là qui doit être fait par les parents. Parce que ce sont souvent les parents qui font ça. Alors la grande difficulté ici dans la paroisse, ici à Tanus, moi c'est un problème que je ne sais pas très bien comment résoudre, c'est que les gens habitent très loin. Beaucoup de gens font 1 heure de voiture, 2 heures de voiture pour venir à la messe. Bon, il est évident que vous ne pouvez pas demander à des gens qui font 2 heures de voiture pour venir à la messe le dimanche, plus 2 heures pour revenir, ça fait 4 heures de voiture dans la journée, ça fait un demi-plein ça. Donc ça fait 40-50 euros facilement de carburant. Vous ne pouvez pas leur demander de revenir en plus, par exemple le mercredi après-midi, pour venir en quelque cours de catéchisme. Ils ne peuvent pas, parce que les parents ne sont pas libres, ne peuvent pas remettre les gamins dans la voiture et aller à un cours de catéchisme organisé le mercredi après-midi. Ils ne peuvent pas. C'est matériellement impossible, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop loin, parce que la maman, par exemple, ou le papa, ne peuvent pas s'y libérer. Donc qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'on a le droit de dire, bon, maintenant, ce cas-là, ils se passeront de formation? Non! Devoir grave, on revient sur le point numéro 1, devoir grave pour ceux qui ont charge d'âme, c'est-à-dire les parents, d'enseigner les enfants pour que les enfants connaissent leur catéchisme. D'accord? Alors attention, là, il ne faut pas simplement aider les enfants à se confesser, à leur apprendre à se confesser, il faut leur faire aimer la confession. C'est toujours pareil, on revient toujours au même truc. Les obliger à se confesser, au moins au début. Après, dès que l'enfant arrive à l'âge d'adolescence, il faut faire attention, on peut pas, vous pouvez obliger un gamin de 5 ans de se confesser, parce que les parents doivent pousser un petit peu pour leur apprendre à utiliser le confessionnal. Mais dès que l'enfant arrive à 14-15 ans, là faites un peu attention, vous pouvez pousser les enfants à se confesser, vous pouvez les encourager à se confesser, mais vous pouvez pas amener l'enfant manu militari au confessionnal pour l'obliger à se confesser, parce que là vous obtenez des mauvaises confessions à tous les coups. Alors attention, et ça c'est un point essentiel, arrangez-vous pour que vos enfants s'entendent bien au moins avec un bon prêtre de la tradition et qu'ils aiment se confesser à ce prêtre. Quand un enfant de 10-12 ans est habitué à se confesser à un prêtre, il va garder ce prêtre pour pouvoir se confesser à lui parce qu'il le connaît bien. Et s'ils arrivent à 15-16 ans et qu'ils continuent volontairement à se confesser à ce prêtre, 15-16 ans, c'est malheureusement dans bien des cas... Avant, c'était l'arrivée des péchés mortels, à 15-16 ans. Maintenant, les péchés mortels, ils n'arrivent plus à 15-16 ans, ils arrivent à 10 ans.
Oh.
Mais oui, maman. Ils arrivent à 10 ans à cause, justement, des médias, à cause des journaux, à cause des téléphones portables, à cause de tout ce que les enfants font dans les cours de récréation. Ils parlent avec des mauvais camarades. Je ne veux pas donner d'exemple parce que je veux pas... faire des choses trop triviales, mais je pourrais vous donner des exemples de vices contre nature que les enfants de 10 ans déjà savent décrire, donc ils ont appris ça à l'école. Les parents sont complètement perdus. Ils disent, oh, monsieur l'abbé, ma petite fille, elle a 12 ans, elle est complètement innocente, c'est une petite voix blanche, pas de problème. Tu parles, puis quand on... Est-ce qu'elle se rend compte qu'il y a à 12 ans, dans les écoles modernes, à 12 ans, il y a des filles qui ont déjà perdu leur virginité, à 12 ans. Avant, les gens perdaient leur virginité à 16-17 ans, malheureusement. Maintenant, c'est 12 ans. Moi, j'ai des parents qui m'ont... Des professeurs qui m'ont dit, monsieur l'abbé, avant, les enfants perdaient leur virginité à 16-17 ans, maintenant, c'est 12 ans, et même maintenant, c'est avant. Avant, parce que justement, les enfants... D'où ça vient ça? Parce que ça vient entre autres de malheureusement l'accès à la pornographie qui est devenu extrêmement facile avec les téléphones portables. Donc des gamins de 12 ans ont déjà accès à la pornographie. La pornographie, encore une fois, c'est des imbécilités qu'on entend régulièrement. Monsieur l'abbé, la pornographie, ce n'est que pour les adultes. C'est faux! La pornographie, c'est pour personne! La pornographie, c'est mauvais pour les enfants, c'est mauvais pour les adolescents et c'est mauvais pour les adultes. Il y a des gens qui pensent que la pornographie, c'est pas bon pour les enfants. Il faut préserver les enfants de la pornographie, surtout qu'ils n'aient pas le droit de regarder la pornographie, pas possibilité de regarder la pornographie avant d'avoir 18 ans. J'ai entendu, une fois qu'ils ont 18 ans, ils peuvent y aller. Mais j'entends les parents sortir penser des choses comme ça. Ils ne me le disent pas tout haut parce qu'ils ne veulent pas que je sache ce qu'ils pensent. Mais c'est ce qu'ils pensent. Il faut savoir que la pornographie, c'est déjà un péché grave pour les enfants. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit ? Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Pour moi qu'il dit, c'est notre Seigneur. Ensuite, ça peut rajouter que les adultères, ils ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise ne possédera pas le royaume des cieux, c'est ce que ça veut dire. D'accord ? Et alors là il faut faire extrêmement attention de ne pas mettre cette idée, de ressortir ces idées de la tête des gens, que la pornographie est quelque chose de mauvais, pas simplement pour les enfants, pas simplement pour les adolescents, mais aussi pour les adultes. Et donc que les parents fassent extrêmement attention de ne pas introduire ce genre de cochonnerie dans les familles, parce que même de façon privée, parce que c'est des catastrophes au niveau des enfants, parce que ça détruit tous les ménages, hein. Ça détruit tous les ménages, parce que par la pornographie ils commencent à apprendre des tas de choses, et puis une fois qu'ils sont adultes, ils vont tenter, une fois qu'ils commencent à sortir avec une jeune fille, ils vont tenter d'expérimenter ce qu'ils ont vu en pornographie, et une fois qu'ils sont mariés, ils vont être tentés de considérer, je m'excuse des termes, et considérer leur épouse comme la prostituée personnelle, et ça fait des catastrophes dans les ménages, parce que les jeunes femmes avec raison n'acceptent pas ça. Vous voyez ? Donc il y a tout un travail d'éducation à faire là. C'est pour ça que la confession est absolument fondamentale. Deux choses fondamentales, la confession et la communion. Donc ce sont les deux premiers points. Je m'excuse d'insister, mais c'est capital. Obligation pour les curés et ceux qui ont charge d'âme, donc curés et parents, doivent donner au moins une heure de catéchisme par semaine aux enfants. Vérifier que ça a été fait dans les cas assez rares où les enfants vont encore dans les écoles de la tradition où ils ont un véritable catéchisme. Bon. Vérifier que l'enfant a compris, que l'enfant aime son catéchisme, et si vous arrivez à aimer votre catéchisme, vous avez déjà fait la moitié du travail pour amener votre enfant au ciel. Deuxièmement, il faut les préparer à bien recevoir le sacrement de pénitence. Bien recevoir le sacrement de pénitence et la confirmation. Il y a tout un travail de préparation, moi je le vois avec les adultes, quand des adultes me contactent parce qu'ils ont passé 20 ans ou 30 ans sans confession, ils ont en général envoyé, ils sont baptisés, ils ont envoyé tout promener vers 15-16 ans, et puis ils redébarquent à parfois 20, 28, 30, 35 ans. Bon, je l'avais, ben voilà, on voudrait régulariser notre situation matrimoniale, reprendre le contact avec les bourdieux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Première étape, c'est faire une bonne confession générale. Donc je leur donne les papiers de confession générale que j'utilise pour les retraites et je les aide à se préparer à une bonne confession générale. Une fois qu'ils ont fait une bonne confession générale, on rattache, comme on dit vulgairement, le wagon à la locomotive, on peut se remettre sur les rails. Vous voyez ? Mais c'est absolument fondamental. Donc deux choses, se préparer à la sacrement de pénitence, aider vos enfants, travailler sur vos enfants pour qu'ils puissent aimer se confesser. Quand je vous l'ai déjà dit, mais je répète les mêmes choses, je m'excuse encore une fois, mais c'est pas la répétition que les choses rentrent. Quand les parents me disent, monsieur l'abbé, j'ai l'impression que ma fille de 17 ans, mon garçon de 17 ans, est en train de tout envoyer promener. Est-ce que c'est encore récupérable? Première question que je vais toujours poser, c'est est-ce que votre fille de 17 ans, est-ce que votre garçon de 17 ans, est-ce que ces enfants de 17 ans, est-ce qu'ils continuent de se confesser régulièrement, volontairement?
Oui.
Attention, volontairement. Pas pour être forcé par les parents, hein. Parce que moi j'ai eu plusieurs fois des cas comme ça, hein. J'ai eu des cas comme ça plusieurs fois. Bon, on le voit. Un adolescent qui rentre au confessionnal et qui me dit, c'est des exemples que je vous donne, mais ça, tous les prêtres, je suis sûr, ont eu des cas comme ça. Et l'enfant me dit au confessionnal, l'adolescent de 17 ans me dit au confessionnal, monsieur l'abbé, je viens me confesser parce que ma mère m'y oblige, mais j'ai pas du tout envie de me confesser. Je n'ai aucun regret de mes péchés, je continuerai de pécher. Alors on parle pendant 2 minutes, j'essaie de les encourager, mais bien sûr je ne peux pas donner absolution, j'entends même pas l'accusation, il n'y a pas d'accusation d'ailleurs, parce que je garde l'enfant l'adolescent pendant quelques minutes, j'essaie de l'encourager, j'essaie de faire quelque chose, souvent on n'obtient rien du tout, l'enfant vient contraint forcé, l'adolescent vient contraint forcé, qu'est-ce que ça vaut une confession comme ça? C'est pas une confession, c'est rien du tout. Je suis obligé de dire aux enfants, surtout n'allez pas communier, mais qu'est-ce que va dire ma mère? Débrouillez-vous, prenez un bout de pain et vous mangez un bout de pain. Comme ça, vous pourrez dire à votre maman, je ne peux pas communier parce que j'ai mangé. problème, c'est que ça va marcher une fois ou deux, pas trois fois. Hein. Faire attention, parce que les parents font des catastrophes. Hein. Ils font des catastrophes en obligeant leurs adolescents à se confesser. Non. Il faut encourager l'enfant à se confesser. Conseiller l'enfant de se confesser. Aider l'enfant à avoir un bon contact avec un prêtre qui est un peu un ami de la famille. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai remarqué dans les familles, quand les familles connaissent bien un prêtre, moi, je vois par exemple les familles qui habitent assez loin, que je vois régulièrement, les familles que je côtoie, par exemple, quand je vais faire ma mission dans le nord de la France, des familles que je commence à bien connaître, depuis des années, j'y vais une fois par mois, les enfants me connaissent, souvent je couche dans la famille, donc je peux manger avec les enfants, manger avec la famille, ils me connaissent. Et quand les enfants sont habitués à se confesser avec le même prêtre depuis des années, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez? Et si les adolescents se confessent volontairement, là c'est un bon signe. En général, on arrive à les rattraper. Par contre, quand il n'y a plus de confession, c'est fini. Hein. Un adolescent de 17-18 ans qui a arrêté la confession, c'est fini. Il va perdre la foi, c'est sûr. Alors, il n'y a pas foi à revenir vers 30-35 ans, mais alors avec, malheureusement, dans certains cas, des situations irrécupérables. Parce que quand on a des jeunes qui reviennent, souvent les jeunes, j'ai remarqué, on va tout promener à partir de 15-16 ans. Ils continuent de se confesser parce que les parents sont derrière leur dos, ils les obligent à se confesser. Dès qu'ils arrivent à 18-20 ans, ils envoient tout promener. Pas tous, mais souvent. Ils envoient tout promener parce que là, ils sont en université, par exemple, donc ils n'ont plus les parents sur le dos, ils envoient tout promener. Plus de pratique, plus de confession, plus de communion, plus de chapelet, plus rien. Et souvent, vers 28-30 ans, il y a un retour. Il y a un retour, soit provoqué par une grosse déception amoureuse, ça arrive souvent, ou un accident, régulièrement j'ai eu des cas comme ça, monsieur l'abbé, j'ai failli me tuer en voiture.
Hein?
J'ai failli me tuer en voiture la semaine dernière. Monsieur l'abbé, je ne me suis pas confessé depuis 10 ans, alors j'ai décidé de faire un peu le point avec vous, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je suis vraiment passé très très proche de la mort, je m'en suis tiré miraculeusement, mais monsieur l'abbé, j'étais pas en état de grâce, alors est-ce que vous pouvez m'aider? Donc on donne les papiers, on les aide à faire une bonne confession générale, et là il y a un retour. Alors deux cas peuvent se présenter entre 25 et 30 ans. En général, c'est 25 et 30 ans. Soit ils sont dans une situation qui n'est plus récupérable. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils sont mariés autour de 20 ans, 22 ans, sur un coup de tête.
Mariés.
Et donc, ils sont mariés et ils sont déjà séparés à 28 ans. Parce que les mariages modernes, ça dure 3-4 ans. Puis, hop, on se sépare. Donc, s'ils sont mariés religieusement, devant notre Seigneur, à l'Église catholique, c'est un mariage valide. S'il y a l'acceptation des enfants, l'unité et l'indissolubilité, le mariage est valide. Ils se marient à 22-23 ans, beaucoup trop jeunes, ils ne sont pas encore suffisamment mûrs. À 26 ans, ils sont déjà séparés. Et à 28 ans, il y a un retour. Ils reviennent, ils sont seuls. Ils ont eu déjà plusieurs petites copines, mais ils sont mariés une première fois religieusement. Et ils viennent et on leur dit, mais attendez, quelle est votre situation matrimoniale? Moi, c'est la première question que je pose aux gens qui reviennent. Quelle est votre situation matrimoniale? Ben voilà, je me suis marié sur un coup de tête il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Marié religieusement? Ben oui, monsieur l'abbé. Vous êtes toujours avec la même? Ben non, monsieur l'abbé. Maintenant, je voudrais reprendre le bon chemin. Qu'est-ce que je dois faire? Le jour où vous êtes marié religieusement? Oui. À l'Église catholique? Oui. Vous aviez l'intention d'accepter les enfants, l'unité, c'est-à-dire un homme et une femme, l'indissolubilité, pas de divorce, pas de remariage. Vous étiez d'accord pour l'unité des enfants, l'indissolubilité? Ben oui, monsieur l'abbé. Alors vous êtes marié définitivement? Vous ne pouvez pas vous marier. Mais monsieur l'abbé, je voudrais changer de vie. Changer de vie, vous pouvez, mais vous êtes déjà marié, monsieur.
Alors,
ou vous essayez de vous réconcilier avec votre épouse, mais monsieur l'abbé, c'était un coup de tête quand j'avais 20 ans, comment je fais maintenant? Et là, c'est des situations impossibles, hein, parce que les gens se retrouvent à 25 ans, ils ont envie de... Cette fois-ci, ils veulent faire les choses correctement. C'est trop tard, ils sont déjà mariés. C'est pour ça que les anciens, ça aussi, j'explique souvent ça aux parents, j'ai déjà expliqué, mais je répète, parce que les gens oublient tout. Les anciens curés, ils savaient ces choses-là. Et quand deux jeunes de 20 ans venaient les voir pour demander à se marier, ils refusaient les mariages. Quand ils savaient que ça ne tiendrait pas. Parce qu'ils connaissaient des gamins depuis qu'ils étaient tout petits. Et j'ai connu des vieux curés qui nous disaient, il ne faut surtout pas les marier. Ils viennent à 20 ans, oh, on s'aime, on se marie. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ça ne tiendra pas. On s'aime, on se marie. Ça ne tiendra pas, on s'aime, on se marie. Ça ne tiendra pas, je refuse de vous marier. Très bien, on se met en concubinage. Débrouillez-vous. Je ne suis pas d'accord, c'est un péché. Ils se mettent en concubinage, ça dure 3 ans, ils se séparent. Et à ce moment-là, ils vont voir le curé. Alors, le curé, non, monsieur l'abbé, vous aviez raison, ça n'a pas tenu. Maintenant, je dois faire les choses correctement. Alors là, on peut relancer la machine, et cette fois-ci, ils font un bon choix. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut que les parents fassent très très attention. Ne poussez pas vos enfants qui ont 20 ans à se marier. Si vous rendez, surtout si les curés qui les connaissent bien ou les parents qui les connaissent bien savent très bien que ça ne va pas durer. On peut deviner que ça ne va pas durer. C'est pas sérieux. Bon, ça peut durer. Moi, j'ai connu des jeunes qui se connaissaient depuis très jeunes, des amis d'enfance. Ils se sont mariés, ça a fait des très bons mariages. Mais souvent, ça ne tient pas. Oui, donc il faut faire extrêmement attention à ces choses-là, et c'est là où la confession fréquente a beaucoup d'intérêt. Oui, donc là il y a tout un travail, c'est là le travail d'éducation et le travail de confiance aux parents, confiance dans les parents ou pour confiance dans le curé aussi. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois. J'avoue que c'est une grande joie pour moi quand un jeune que je connais depuis des années, parfois je l'ai baptisé, donc je le connais depuis 10 ans, 20 ans, parfois 25 ans, il vient me voir, il me dit, voilà, monsieur l'abbé, je pense à me marier, j'ai fini ma formation intellectuelle, ma formation universitaire, par exemple, j'ai un boulot en poche, j'ai un CDI, ça y est, j'ai de quoi maintenant pouvoir me marier, accepter le premier enfant, je compte me marier avec telle personne que vous connaissez, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous en pensez? Si je connais bien la personne, je peux leur dire, écoutez, moi je peux vous donner une opinion, c'est une opinion, je peux me tromper. Mais à mon avis, ça ne tiendra pas. À mon avis, ça ne tiendra pas pour telle, telle et telle raison. Ou au contraire, je peux dire, c'est pas impossible que ça marche. Je vérifie surtout beaucoup les tempéraments. Est-ce que c'est les tempéraments qui s'accordent, hein? Par exemple, un colérique qui veut épouser une colérique, il va acheter un extincteur, hein? Un gros extincteur, parce qu'un colérique qui épouse une colérique, ça va exploser. Le pire, c'est une phlegmatique qui épouse un phlegmatique. Alors là, c'est la fin de, un phlegmatique qui épouse une phlegmatique, c'est la fin des haricots, c'est la chapelle de la Belle au Bois Dormant. Hein. Ils font rien du tout parce qu'ils sont trop, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Vous voyez. Donc là, il y a tout un travail à faire. Bon, parfois, je peux me tromper. Hein. Je peux dire, je donne une opinion. Et puis, alors, ce qui est très difficile, c'est qu'on est, quand on connaît bien les gens, on est en même temps lié par le secret de confession. Je sais par exemple, par le secret de confession, que monsieur Intel, qui a 20-25 ans, que je connais depuis très longtemps, a un énorme problème de drogue et d'alcool. Je le sais par la confession. Je ne le sais pas à l'extérieur. Une jeune fille vient me voir et me dit, monsieur l'abbé, je pense à épouser telle personne, je crois que vous le connaissez bien depuis très longtemps, parce qu'il m'a dit que c'est lui qui vous a baptisé, c'est vous qui l'avez baptisé il y a 25 ans, je pense à épouser cette personne, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais par le secret de la confession que ce type est un poireau fini, il boit énormément et il utilise la drogue.
Mais t'as le devoir de la prévenir.
Mais je peux pas, parce qu'il y a un secret de confession.
Quand même.
Ah non, c'est là ce qu'il faut. Là, les parents comprennent pas ça. Il vient de me voir après. Pourquoi vous ne l'avez pas prévu? Mais attendez, comment je le sais?
Quand tu parles avec quelqu'un, tu peux lui dire quelque chose, même si...
Ah,
si
attention, c'est... je n'ai jamais... Il faut bien comprendre ça. Un prêtre n'a jamais, 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 sous aucune circonstance, le droit d'utiliser les choses de la confession. Jamais. Donc si je sais par la confession que monsieur est un poireau...
Oui, mais il le sait en même temps, parce que ça se dit...
Ah ben, ça peut se savoir par un autre moyen, ça c'est autre chose. Mais même là, c'est dangereux, hein. Parce qu'on peut nous accuser après d'avoir violé le secret de confession. Bon, si je sais par d'autres... Je dis à la jeune fille, écoutez, moi il me fait plutôt une bonne impression, alors je sais que c'est un bandit, mais s'il me fait une bonne impression, je lui dis, écoutez, il me fait plutôt une bonne impression, mais écoutez, faites une enquête, mademoiselle. Faites une enquête, renseignez-vous auprès de ses amis, parce que nous, on est liés par le secret de confession tout le temps, dès qu'il nous parle au confessionnal, mais les amis, ils ne sont pas liés par le secret de confession. Et quand elle commence à faire une enquête auprès de ses amis vont lui dire, si elle fait l'enquête correctement, vous savez, c'est un trou sans fond, un verre sans fond. Il boit le gars. Hein. Et en plus, il a des problèmes de drogue. Et en plus, c'est un coureur de jupons. À ce moment, elle le sait. Mais c'est ça le drame. Parce qu'on a parfois des gens, ça se retourne contre nous. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? J'étais pas au courant. Mais je lui en ai parlé, il m'a dit que vous étiez au courant. Comment il me l'a dit? Il m'a dit qu'il vous l'a dit au confessionnal. Écoutez, moi je ne sais pas ce qu'il m'a dit au confessionnal, mais ce que je sais au confessionnal, je le sais moins que si je ne le savais pas. C'est ça ce qu'est la confession. Allez faire attention. Et c'est terrible parfois. Parfois, parce qu'on donne parfois la communion à des gens, en sachant très bien qu'ils font une communion sacrilège, on peut rien faire.
Que?
On donne parfois la communion à des gens, sachant très bien qu'ils font une communion sacrilège, on peut rien dire, parce qu'on est tenu par le secret de confession.
Tu leur diras,
non! Ben, exemple. Je confesse monsieur, avant la messe. J'ai repéré qui c'était, parce que je l'ai vu par la grille, je sais qui c'est. Je suis obligé de lui refuser la communion. La confession, par exemple. Je refuse la confession. Je peux pas l'absoudre parce qu'il a aucun regret de ses péchés, parce qu'il a une affaire avec une bonne femme et qu'il veut pas la quitter ou je sais pas quoi. Bon. Exemple. Ou parce que, il a un problème et qu'il veut pas régler. Je lui dis, monsieur, je peux pas vous donner l'absolution parce que sinon c'est moi qui pêche. Bon, il faut, vous vivez en concubinage, vous pouvez pas vivre comme ça, c'est impossible. Il faut quitter cette bonne femme ou il faut régulariser la situation. Bon. Il refuse, pas question, je reste comme ça. Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas vous donner l'absolution. Ne communiez surtout pas. Je sors du confessionnal, je mets les vêtements liturgiques, je commence la messe. Je donne la communion à tous les fidèles, le monsieur arrive et se met au banc de communion.
Alors,
je suis obligé de lui la communion. Parce que si je lui refuse la communion, je viole le secret de confession.
Tu n'as rien du tout.
Mais oui.
La confession, faut parler.
Mais non, absolument pas. Je sais par la confession que je viens de lui donner, refuser l'absolution, qu'il ne peut pas communier. Il se présente au banc de communion. Si je lui refuse la communion, ça veut dire que j'utilise ce que je sais par la confession. J'ai pas le droit. Jamais. C'est ça le secret de confession. Vous voyez ? On a le droit, c'est pour ça qu'au séminaire, on nous disait avec raison, un prêtre a le droit de refuser et doit refuser la communion au banc de communion un dimanche qu'à un pécheur public. Toute la paroisse sait que monsieur est divorcé après un mariage religieux et vit avec une autre bonne femme. Toute la paroisse le sait. Il se présente au banc de communion, je peux lui refuser la communion. Parce que tout le monde le sait. Je sais cette même chose que par le secret de confession. Je ne le sais pas à l'extérieur. Il se présente au banc de communion, je suis obligé de lui donner la communion. Parce que j'ai pas le droit de violer le secret de confession. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Il y a eu des cas, l'exemple que j'ai donné plusieurs fois, sous Pie XII. Sous Pie XII, il y a eu des cas comme ça, douloureux, avec des. C'était au moment où la Russie avait envoyé des communistes infiltrer les séminaires au temps de Pie XII, pour avoir des prêtres aux idées communistes qui commençaient à se répandre dans le clergé. Donc ils envoyaient des prêtres. Des jeunes perdus de foi, qui prétendaient être catholiques, qui prétendaient vouloir se faire former, et qui se formaient, qui en fait avaient l'intention après d'utiliser la certaine sacerdoce pour détruire l'Église. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait exprès d'aller se confesser à leur confesseur habituel juste avant l'ordination sacerdotale, parce qu'on fait toujours une confession générale à l'ordination sacerdotale, et qui leur ont dit, monsieur l'abbé, je suis depuis 5 ans au séminaire, je veux que vous sachiez que je suis communiste, et que je vais être ordonné prêtre demain, et je n'ai aucune intention de rester fidèle à mon sacerdoce, je me fais prêtre pour pouvoir détruire l'Église de l'intérieur parce que je suis envoyé par le Parti communiste ici. Le prêtre ne peut rien faire. Il peut refuser l'absolution.
Ben pourquoi il refuse pas?
Parce qu'il est tenu par un secret de cour. Il refuse l'absolution. Je dis, mais mon ami, mon pauvre ami, vous voulez vous donner? Donnez-vous tout seul. Moi, je n'ai pas l'intention de me donner avec vous. Vous ne pouvez pas recevoir l'absolution. Moi, je m'en fous. Mais vous êtes tenu par secret de confession. Le lendemain, il est ordonné prêtre. Le prêtre ne peut rien dire. L'évêque l'ordonne prêtre, il ne peut rien dire. Le prêtre qui est au courant, il ne peut rien dire à cause du secret de confession. C'est ça le secret de confession. C'est très douloureux parfois. Mais ça arrive tout le temps. Monsieur et madame se confessent. Monsieur et madame se confessent. Deux époux. Madame m'avoue un péché qu'elle a commis avec son mari. Péché grave. Bon, je dis ce que j'ai à dire, je donne absolution si elle regrette. Elle essaie de se corriger, je donne absolution. Le mari vient après. Et m'accuse pas le même péché.
Non.
Je peux pas lui dire, dites donc, ma femme vient de passer, elle m'a dit quelque chose, elle n'a pas quelque chose d'autre à me dire? Si je dis ça, je viole le secret de confession, une excommunication réservée au pape. Je peux rien dire. Je sais que l'absolution est nulle, je sais qu'il me roule, je sais qu'il me roule dans la farine et qu'il veut pas me dire une chose grave qu'il a commise avec sa femme. Je suis obligé de l'absolution, parce que je suis pas au courant. Je n'ai pas le droit d'utiliser le secret de confession. Ça, les parents ont beaucoup de mal à comprendre ces choses-là.
Alors, oui, mais enfin, le secret de confession, ça suppose que la personne, en principe, regrette.
Si quelqu'un entre au confessionnal et commence à accuser des péchés, c'est déjà secret de confession. Absolument. On peut jamais, jamais, même si dans mon bureau, je reçois quelqu'un qui vient me voir et que j'ai besoin de parler, qui me pose des questions, j'ai besoin d'utiliser sa confession antérieure ou ses confessions antérieures, parce qu'il vient me voir, je suis seul avec lui dans mon bureau, je n'ai pas le droit de parler avec lui de sa confession sans son accord. Quand il commence à poser des questions, pour être sûr de ne pas violer le secret de confession, je vais lui dire, excusez-moi, vous vous confessez à moi de façon habituelle, pour répondre à votre question, il vaut mieux que j'utilise ce que je sais par la confession, est-ce que vous m'y autorisez?
Est-ce que
vous m'autorisez à utiliser pour vous répondre ce que je sais au niveau de la confession avec vous? Il dit oui, oui, pas de problème. À ce moment-là, je peux. Mais s'il ne m'autorise pas, je ne peux rien faire. Et je n'ai jamais le droit de dire quoi que ce soit. Ouais. Oui, c'est ça le secret de confession. Le secret de confession est un secret complet. D'accord? Donc, là, il y a tout un travail. Donc, c'est le troisième point. J'aurais quand même commencé aujourd'hui pour avancer un peu quand même. Troisième point. Donc, premier point, obligation de donner une heure de catéchisme donnée par les curés ou par ceux qui ont charge d'âme. Une heure de catéchisme aux enfants. Bon. Deuxièmement, obligation de préparer les garçons et les filles à bien recevoir le sacrement de pénitence et la confirmation. Il est évident que ce qui est dit sur les enfants, c'est valable aussi pour les adultes. Parce qu'il s'agit, aux enfants, on enseigne le catéchisme des enfants, aux adolescents, on enseigne le catéchisme des adolescents, aux adultes, on enseigne le catéchisme des adultes. D'accord? Donc, il faut donner une heure de catéchisme aux enfants, aux adultes, ils en ont besoin aussi. Deuxièmement, on aide les enfants à recevoir le sacrement de pénitence et de confirmation. Troisièmement, on les aide à s'approcher saintement pour la première fois de la Sainte Table. Voilà le texte. De même et avec un soin très spécial, tous les jours de carême. Et s'il en est besoin, à d'autres jours encore, après les fêtes de Pâques, ils disposeront les jeunes garçons et les jeunes filles, par des leçons et des exhortations convenables, à s'approcher saintement pour la première fois de la Sainte Table. Donc il y a tout un travail de préparation pour aider ces jeunes à communier correctement. Une chose, c'est une chose aussi de préparer les enfants à bien communier. Ça, des adultes peuvent le faire. Souvent, moi, j'ai pas le temps parce que je suis pas sur place. Les enfants peuvent pas venir en semaine pour recevoir un cours de catéchisme. Donc, c'est les parents qui le font à la maison. Ou parfois, un ami de la famille qui connaît bien sa foi, qui va enseigner le catéchisme aux enfants. Bon. Ensuite, il faut que les parents aident. Moi, je dis toujours aux parents qui présentent un enfant pour la première communion. On a une première communion, une petite fille, la petite Lilou, c'est a communié pour la première fois dimanche dernier. Chaque fois, je dis aux parents, attention, vous allez devoir aider vos enfants à faire une bonne action de grâce après la messe. Après la communion, il faut aider les enfants, surtout les petits. Ils communient, puis deux minutes après, ils ont oublié. Vous voyez, dans bien des cas. Donc, il faut les aider à ce qu'ils fassent une bonne action de grâce. Apprendre à faire une action de grâce après la confession, après la communion. En utilisant, par exemple, le mot classique, ardor, A-R-D-O-R. Adoration, remerciement, demande, offrande de soi-même.
Moi, je fais toujours
ça. Oui, mais c'est offrande et résolution. Mais oui, c'est excellent. C'est excellent, mais il faut que les parents aident. Les parents aident parce que souvent, les enfants sont capables de le faire par eux-mêmes. Vous voyez, il faut faire attention. Et là encore, ben, que les parents donnent le bon exemple. Hein. Il est évident que si les parents n'ont jamais se confesser, si les parents font jamais d'action de grâce après la communion, comment voulez-vous que les enfants aient envie de le faire? Ils voient leurs parents. Donc les parents ont une responsabilité énorme. Donc, il y a un devoir d'aider, nous dit Saint Pédis, nos enfants qui s'approchent pour la première fois de la Sainte Table, à s'approcher avec les bonnes dispositions. Les aider à faire une bonne confession, à faire une bonne communion, donc faire communier, confesser ses enfants plusieurs fois avant la communion, et après la communion, les aider à faire une bonne action de grâce. Apprendre aux enfants à faire une action de grâce. D'accord? Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est un énorme problème. C'est beaucoup de jeunes qui font la première communion très tôt. Souvent, la communion, c'est maintenant souvent 7-8 ans. Eh bien, ça part faire une action de grâce. Vous savez que pendant très longtemps, malheureusement, c'était surtout à la fin du 19e, les habitudes s'étaient faites. Les habitudes s'étaient prises, malheureusement, des mauvaises habitudes, de retarder l'âge de la première communion. Parce que beaucoup de curés savaient que, après, dans beaucoup de milieux pas très catholiques, les enfants allaient au catéchisme jusqu'à la première communion. Première communion faite, pof, on ne les voyait plus.
Jusqu'à la communion solennelle.
Attendez, c'est après ça. Avant, au 19e siècle, dans les familles légères, je dirais pas très catholiques, les enfants allaient au catéchisme jusqu'à la première communion. Première communion, terminée, on ne les voyait plus jusqu'au mariage. Puis ils revenaient pour le mariage, et puis on les voyait de temps en temps les deux pieds devant pour l'enterrement. En gros, c'était ça. Bon. C'est pour ça que les curés avaient eu tendance à repousser de plus en plus l'âge de la première communion pour essayer de garder les enfants sous l'influence du prêtre pendant beaucoup plus longtemps. Et donc les curés avaient, d'une certaine façon, je les comprends, repoussé l'âge de la première communion jusqu'à 13-14 ans. Et c'est...
La première communion,
la communion solennelle n'existait pas à l'époque. Donc les premières communions avaient lieu à 13-14 ans parce que les curés poussaient l'âge pour essayer de garder l'influence sur les enfants. Et c'est celui qui a donné un coup de pied à la fourmilière, c'est Saint Pédis. Saint Pédis a donné un coup de pied à la fourmilière en disant il faut absolument faire communier les enfants beaucoup plus tôt. Alors les curés ont dit ça va être une catastrophe parce que s'ils communient à 6-7 ans ou 5-6 ans, on va les perdre beaucoup plus tôt. Et c'est là où en France, non pas dans d'autres pays, mais en France, entre autres, ils ont rajouté la communion solennelle pour essayer d'avoir une deuxième barrière de protection et que les enfants restent, du coup, c'est ce qui s'est passé effectivement, les enfants restaient après la première communion parce qu'il y a encore la communion solennelle. Ils attendaient la communion solennelle 13-14 ans, dans les milieux un peu superficiels, le jour de la communion solennelle, c'est fini, terminé, on ne les voyait plus. C'est triste. Là, il y a tout un travail d'éducation à faire. Et c'est Saint Pédis qui a exigé, il a dit, il fait une prophétie, il a dit qu'il y aurait des saints parmi les enfants. Il y aura des saints parmi les enfants. Et c'est Saint Pédis qui a lancé à ce moment-là, puis 11 après lui, la croisade eucharistique. Croisade eucharistique, justement, pour aider la sanctification des enfants. Croix, communie, prie, et soit apôtre. Prie, confesse-toi, communie, soit apôtre. Et donc, c'était le principe de la croisade eucharistique, le Père Pope, surtout, qui a fait un très bon travail là-dessus. Tout un travail qui avait été fait. Et il y a eu des choses extraordinaires. Il y a une petite... dans l'excellent livre de Mademoiselle Quenette, qui s'appelle « L'éducation de la pureté », que je conseille beaucoup, c'est un livre magnifique sur l'éducation de la pureté, un traité sur l'éducation qui est une splendeur. Il a été réédité, moi je l'ai lu plusieurs fois, c'est un livre qui m'a marqué comme prêtre. « L'éducation de la pureté » de Mademoiselle Quenette, c'est splendide. C'est une grande amie de Mgr Lefebvre qui est morte en 1977. On a fait un livre en fait qui s'appelle L'éducation de la pureté, qui est une reprise de tous ces articles qu'elle avait écrits pour la revue de Jean Madiran Itinéraire. Elle avait écrit des articles qu'elle publiait régulièrement d'itinéraire. Et c'est Jean Madiran qui l'a poussé à mettre tous ces articles en un livre pour faire un livre qu'on appelle L'éducation de la pureté. Il y a un chapitre sur la sainteté chez les enfants. Il donne des exemples extraordinaires, entre autres d'une petite Irlandaise qui s'appelait Nelly. Une petite orpheline irlandaise, s'appelait Nelly. Si mes souvenirs sont exacts, elle avait 3 ans. Atteinte de tuberculose, les religieuses étaient dans un orphelinat catholique dirigé par des religieuses. Les religieuses savaient qu'elle allait très vite mourir. Il y avait un très bon aumônier qui s'occupait des enfants. Et les religieuses ont parlé avec l'aumônier en disant « Cette petite, elle est prête à communier. » Parce que la petite, à 3 ans, n'arrêtait pas de demander à communier. Et à l'époque, c'était avant Saint-Pédis.
Elle se rendait compte de ce qu'elle faisait.
Oui, bien sûr. C'était à l'époque, avant Saint-Pédis, donc la communion à 3 ans, c'était impensable. Heureusement, l'aumônier a compris le problème. Il a vu que la petite avait vraiment, vraiment un grand désir de communier. Et les religieuses ont dit... Le jour de sa première communion, elle n'a pas dormi toute la nuit tellement, elle était heureuse de pouvoir communier pour la première fois. Ils lui ont donné une petite robe toute blanche, une petite couronne de fleurs sur la tête. Elle est allée communier. Les deux religieux ont dit, elle a communié à la messe du matin, elle est allée se mettre à genoux, elle est restée sans bouger jusqu'au repas de midi. Elle est venue toute rose, elle est restée sans bouger à son banc de communion, à sa chaise de la chapelle, depuis la messe du matin jusqu'au repas de midi. Jusqu'au repas de midi. Elle est restée sans bouger à faire son action de grâce. Et elle est morte quelques mois après. Il y a Herman, Emma, Wins, il y a eu un autre Belge comme ça. Il y a eu plusieurs enfants qui se sont sanctifiés comme ça par la communion. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà le texte de Saint-Pédis. C'est le troisième point. Donc il faut, encore une fois, il s'adresse à tous les curés et en général à tous ceux qu'on charge d'âme. Donc encore une fois, c'est une des rares encycliques qui n'est pas adressée directement ici aux évêques, contrairement à la plupart des encycliques. L'encyclique Pascendi Dominici Gregis de 1907 est adressée aux évêques. Aux évêques, qui en charge des curés. Donc ça passe des évêques aux curés et aux âmes. Là, il parle directement tous les curés et en général ceux qui en charge d'âme. Donc c'est un texte qui est adressé aux parents. Ceux qui en charge d'âme, c'est les parents. Bon, les curés, les parents. Donc, ils disent bien, les curés et ceux qui en charge d'âme doivent enseigner le catéchisme à ceux dont ils ont la charge une heure par semaine. Deuxièmement, il faut préparer les garçons et les filles par une instruction correspondante à bien recevoir le sacrement de pénitence et de confirmation. Troisièmement, il faut disposer les jeunes garçons et les jeunes filles par des leçons et des exhortations convenables à s'approcher saintement pour la première fois de la Sainte Table. Donc, préparer les enfants à communier. Préparer les enfants à se confesser, à communier pour la première communion et donc les préparer pour la confession. La meilleure préparation pour une première communion, c'est la confession. Que les enfants s'habituent à se confesser. Moi, j'ai connu des petits de 4-5 ans qui se confessaient régulièrement, plusieurs fois, 4-5 fois avant la première communion. Et ils voulaient se confesser tous les mois. Alors, on voit tout de suite, quand on les confesse, s'ils sont suffisamment mûrs. On voit tout de suite, quand ils ne sont pas assez mûrs, on le voit, on leur dit, bon, on essaie de les aider un peu, puis on dit, bon, revenez vous confesser dans 2-3 mois. Là, vous n'êtes pas encore prêts. Bon, mais c'est très important. On le voit aussi parce que les gamins qui n'ont pas compris, on le voit parce qu'ils commencent à accuser les péchés des parents, ou les péchés des frères et sœurs. C'est à mourir de rire. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois. Les gamins se met au confessionnal. Il y a un gamin de 4 ans qui veut se confesser parce que les parents, la maman, ont entendu les cours de l'abbé Lafitte. Ah, on va pousser mon petit à se confesser. Donc, 4 ans, allez, tu vas te confesser. Le gamin, il n'est pas encore mûr. Il n'a pas encore l'âge de raison. Donc, il va se mettre au confessionnal. Monsieur l'abbé, mon petit frère, il a fait ça et ça et ça. Et mon grand frère, il a fait ça et ça et ça. Et ma grande sœur, elle a fait ça et ça. Et mon papa, il s'est attrapé avec maman. Je l'ai entendu se disputer avec maman. Oui, oui, monsieur l'abbé, j'ai tout entendu. Donc, j'ai dit au gamin, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, ben, accuser les péchés des parents, ça m'intéresse pas. Les péchés de la petite sœur, de la grande sœur, du grand petit frère, du grand frère, ça m'intéresse pas. Pas ici, en tout cas. Et vos péchés à vous? Pas moi, j'ai rien fait, moi. Bon, le gamin, manifestement, il n'est pas encore mûr. Vous voyez, il n'est pas encore mûr, donc on lui dit, ça va revenir plus tard. Vous voyez? Mais très souvent, ils sont mûrs. Hein. Un gamin qui est capable de commettre un péché, capable de se confesser. Hein. Je répète les conseils.
Regarde, les gamins, quelquefois, des petits 4 ans, qui ont envie de chipper quelque chose.
Bien sûr.
Ils ferment la porte de la pièce pour monter sur une chaise pour aller chipper un gâteau ou un
bonbon. Oui, parce qu'ils savent très bien, ils ont conscience qu'ils leur disent quelque chose.
Bien sûr,
bien sûr, bien sûr. Et ça, encore une fois, c'est Saint-Pédis qui, avant même l'établissement de ces règles, c'est Saint-Pédis a dû se bagarrer avec les curés italiens, entre autres, qui ne voulaient pas qu'on rajeunisse l'âge de première communion. Ils ne voulaient pas. Saint-Pédis, qui était pape, s'est battu avec eux pour imposer sa volonté. Et il disait, il faut que l'enfant soit capable de distinguer entre le pain eucharistique et le pain ordinaire. Deuxièmement, qu'il soit capable de distinguer entre le bien et le mal. Distinguer entre le bien et le mal. Distinguer entre le bien et le mal, le pain eucharistique et le pain ordinaire. Et ça suffit. Si l'enfant a compris ce que c'est qu'un péché, ça suffit. Il y a une histoire que j'ai déjà citée, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. Saint-Pédis qui reçoit un groupe de pèlerins français, d'ailleurs, à Rome. Un petit garçon était avec une famille, s'échappe des mains de sa maman, se précipite vers le Saint-Père, et qu'il reçoit avec bonté. Le Saint-Père est en train de parler avec les pèlerins. Le petit gamin de 5 ans se précipite, alors que c'était avant le décret sur la communion fréquente, se précipite vers le Saint-Père, très Saint-Père, je veux communier. La maman court derrière. Il est beaucoup trop jeune, il n'a que 5 ans. Saint-Pédis l'a pris à part.
Hein?
Saint-Pédis l'a pris à part et lui a dit, mon petit, pourquoi tu veux communier? Qu'est-ce qu'il y a dans la communion? Il y a Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Il est allé voir à la voix, il dit, vous me l'amenez demain matin à ma messe privée à la chapelle Sixtine, je lui donne la première communion moi-même. Et c'est lui qui a donné la première communion au petit gamin à 5 ans. C'était avant les décrets, j'ai oublié de vérifier la date des décrets de communion fréquente, c'est autour des années 1912, quoi, ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, il y a tout un travail de formation impératif aussi pour aider les enfants à se confesser correctement et à communier correctement. Après, quatrième point. Encore 10 minutes, là. Quatrième point. Dans toute et chaque paroisse sera établie canoniquement une association dite de la doctrine chrétienne. Par elle, les curés, surtout là où le nombre des prêtres est trop petit, trouveront pour les aider dans l'enseignement des catéchismes des laïcs qui se dévoueront à ce ministère par zèle pour la gloire de Dieu et ainsi pour gagner les indulgences que les pontifes romains ont largement dispensées. Donc Saint Pie X demande à ce que des groupes de catéchistes soient organisés, surtout dans les paroisses où il y a beaucoup de monde. Bon, les paroisses où les catéchistes sont... C'est toujours très important, les paroisses. Moi, ça, je souffre de ça, de ne pas pouvoir faire de catéchisme ici dans vos paroisses pour les enfants, parce que les enfants ne peuvent pas venir en semaine. Bon. Mais il y a des fois, c'était impossible. J'ai prêché au Gabon, par exemple. J'ai prêché des exercices au Gabon. Au Gabon, en Afrique centrale, c'est sur l'équateur, dans la partie, les champs clos de l'Afrique. Il y avait 14 tribus, 14 dialectes. Dans la chapelle de Saint-Pédis à Libreville, la capitale du Gabon, il y avait 1000 personnes dans la messe. Une énorme paroisse, beaucoup, beaucoup d'enfants qui venaient des 14 tribus. Problème, trouver une langue commune. Donc, la plupart, il y avait déjà un énorme problème dans le pays, parce qu'il y avait 14 tribus. Donc, ils ont discuté entre eux, les palabres africains. Qu'est-ce qu'on va prendre comme langue nationale, puisqu'il y a 14 tribus, chacun a son dialecte. Alors, comme ça avait été sous contrôle français pendant longtemps, protectorat français pendant longtemps, les responsables des défis politiques ont dit bon, on va prendre le français parce que tout le monde le parle. Je dis d'accord, ben oui, parce que sinon ils avaient tous se bagarrer, on va prendre tel dialecte ou tel dialecte ou tel dialecte. Ils ont pris le français comme langue commune, tout le monde était d'accord parce que tout le monde le parlait. Mais les enfants n'étaient pas très à l'aise toujours en français. Dans certains milieux très pauvres, les enfants ne parlaient pas français à la maison. Ils parlaient à l'école. L'école est souvent donnée en français, mais pas à la maison. Eh bien, on était obligé de faire des catéchismes à Libreville, à la mission Saint-Pie-X, dans 14 langues différentes. Donc il y avait des catéchistes qui étaient formés pour chaque langue. Donc chaque catéchiste, c'est du coup quand j'étais le mercredi après-midi, les catéchistes avaient 14 des salles différentes, et puis toutes les langues parlées par les enfants, chaque groupe de linguistique avait un catéchiste attitré qui parlait la langue en question, pour que les enfants comprennent bien. Vous voyez ? Donc il faut adapter, et ça, c'est tout ça, cette formation de catéchiste est extraordinaire. Et Mgr Lafebvre nous en a souvent parlé parce qu'il a été, avant d'être évêque de Dakar, il était archevêque de Dakar, c'est au Sénégal, Dakar, ou Côte d'Ivoire, je crois que c'est Sénégal, Dakar. Faut que je révise ma géographie. Je ne sais plus si c'est Sénégal ou Côte d'Ivoire. Je crois que le Sénégal, c'est Dakar. Bon. Ou la Côte d'Ivoire, c'est un des deux, je ne me rappelle plus. Et Mgr Lafebvre, justement, avait beaucoup parlé de ça. Il était entre autres, avant, il a été directeur du séminaire de Libreville. Après, il s'est retrouvé dans l'émission. Il n'était pas encore évêque. Il était juste un simple prêtre. Et il a beaucoup insisté sur la formation des catéchistes. Parce que les catéchistes parlaient les langues. Souvent, les moines missionnaires, les prêtres missionnaires en Afrique, Mgr Lafebvre, parlaient deux dialectes. Il parlait le fan et le miyéné, si mes souvenirs sont exacts. Le fan et le miyéné, qui étaient deux langues. Mais il y en a 14. Il ne pouvait pas parler toutes les 14 langues. Donc il était indispensable de former des catéchistes. Donc il formait des catéchistes qui parlaient les langues, qui parlaient aussi le français, parce qu'ils avaient eu un petit peu de formation quand même avec les écoles. Donc on les formait, les prêtres les formaient, pour qu'ils puissent après, si vous voulez, le prêtre c'était le pommeau de l'épée, puis les épées un peu partout, pour aller travailler sur les âmes, pour obliger les âmes à se rapprocher du bon Dieu. Et donc le prêtre formait les catéchistes qui après allaient dans les différents villages, là réunissaient les enfants du village et donnaient des cours de formation de catéchisme aux enfants du village dans leur langue. Puis ensuite, lorsque les enfants étaient suffisamment formés, le prêtre venait voir confesser les enfants, on essayait de trouver un prêtre qui parle la langue, ou alors les enfants préparaient un baragouiner vaguement le français pour qu'on puisse avoir un gros problème de langue. C'est compliqué dans ces pays-là pour arriver à confesser dans les langues. J'ai eu le même problème quand j'étais aux îles Fidji au nord de la Nouvelle-Zélande. J'ai eu des gros problèmes aussi, par exemple, pouvoir confesser avec les différents dialectes qu'il y avait en dehors de la capitale, Suva, où les gens parlaient anglais, les enfants parlaient anglais à Suva, mais dès qu'on allait dans les villages, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'anglais, ils parlaient les langues locales. C'était compliqué au possible. Vous voyez, tout ça, c'est très très important. La formation des catéchistes, c'est là, Saint-Pie X insiste beaucoup là-dessus. Et c'est très important aussi aujourd'hui, parce que beaucoup de fidèles habitent dans des endroits où il n'y a plus de messe, il n'y a plus de messe traditionnelle, plus de parents de curés dans certains milieux où il n'y a plus de messe. Des gens qui habitent dans des pays très éloignés, dans lesquels il n'y a plus de messe du tout. Moi, je connaissais des gens qui habitaient à Pékin, je l'ai souvent cité. Une famille qui habitait à Pékin, en Chine, la messe traditionnelle le dimanche, c'est impossible. Même pas souvent de messe moderne, rien du tout. Donc, il fallait arriver que les parents impérativement enseignent le catéchisme aux enfants pour les préparer par eux-mêmes à la confession, à la communion. Puis après, on pouvait venir les voir quand ils étaient prêts pour qu'ils puissent justement faire un travail de... On peut aussi se préparer à la confession, préparer à la communion. Mais tout un travail. Et là, Saint-Pédis insiste largement là-dessus. Aider dans l'enseignement des catéchismes, trouver des laïcs qui vont devenir des catéchistes, qui se dévoueront à ce ministère par zèle pour la gloire de Dieu, aussi pour gagner les indulgences que le pontife romain a largement dispensées. Et il y a eu des martyrs, hein. Monsieur Lefebvre nous en a parlé souvent, parce que dans les cases, dans les villages de brousse, lorsque les catéchistes commençaient à former les enfants qui se préparaient à la première communion, le grand obstacle, c'était le sorcier. Il y avait un sorcier par village. Le sorcier avait une influence énorme sur les villages. Énorme, considérable. Parfois plus que le chef du village. Le chef du village, le sorcier, et le sorcier, évidemment, était furieux de voir les catéchistes qui venaient, qui lui arrachaient des âmes. Parce que dès qu'on commençait à catéchiser un village, il fallait sortir les enfants de l'influence du sorcier. Et il y a eu des martyrs, hein. Il y a eu des martyrs, parce que Mgr Lefebvre nous a dit, il y a eu beaucoup de cas d'empoisonnement. Les sorciers organisaient des empoisonnements des catéchistes pour les empêcher d'arracher les âmes. Et Mgr Lefebvre nous a raconté des choses invraisemblables. Il nous disait, lorsque, malgré le travail de sape des sorciers ou du sorcier du village, quand, heureusement dans certains cas, la force apostolique des missionnaires était plus forte. Et donc, le sorcier finissait par perdre tout le village. Donc, parce que tout le village devenait catholique. Quand le village devenait catholique, entièrement, on pouvait se débarrasser du sorcier. Bon, alors, on n'allait pas le tuer, bien sûr, que non, on ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce que faisaient les chefs de village? Une fois que tout le village est devenu catholique, le sorcier ne se convertissait jamais. Il est pratiquement impossible de convertir un sorcier. Parce qu'il avait un pouvoir énorme, avec ses amulettes, avec les poisons, tous ces machins-là. Ils étaient obligés, mon Seigneur Lefebvre nous l'a raconté plusieurs fois, ils étaient obligés, j'ai déjà expliqué ça, mais je réexplique pour ceux qui me prennent en vol. Seigneur Lefebvre nous disait, on allait chercher quatre gros malabar, des noirs bien, bien costauds là, qui allaient attraper par la peau du cou le sorcier, qui le traînait en dehors de sa case, qui l'attrapait, on prenait un bidon d'essence, on arrosait la case du sorcier d'essence, on mettait le feu pour brûler la case, parce que la case contenait tous les poisons, les amulettes, les machins comme ça. Et ça brûlait. Et Mgr Lefebvre nous a dit, plusieurs fois, il a dit, malgré les quatre gaillards bien musculaires, qui tenaient le sorcier arrivait à s'échapper des mains des gens qui le tenaient à l'écart, et se précipitait dans le feu pour mourir dans le feu. Parce qu'il préférait mourir brûlé vif que de reconnaître qu'il avait perdu le pouvoir sur le village. Oui, c'était. Et Mgr Lefebvre nous a raconté ça. Il nous a dit qu'il y a eu plusieurs cas de martyrs de catéchistes qui ont été empoisonnés par l'influence du sorcier, parce que ça dépendait beaucoup de la conversion du chef du village. Parce que si on arrivait à convertir le chef du village, à ce moment-là, les conversions allaient très vite. Le village entier, parce que c'est comme un peu en Allemagne. Les gens avaient la religion de leur prince. Quand le prince était catholique, tout le monde était catholique. Si le prince devenait protestant, pratiquement tout le monde passait au protestantisme, malheureusement. Dans ces villages, c'était souvent comme ça. Ça dépendait du chef du village. Si le chef du village se convertissait, ce qui était très compliqué, à cause de la polygamie. La polygamie. Parce que tous ces chefs de village, les chefs de village avaient droit à plusieurs femmes. Quatre femmes, parfois autant de concubines. Ils avaient souvent une dizaine de concubines, ou une dizaine de femmes. Il est évident que quand ils se convertissaient, ben, il y en a neuf de trop. Hein. Il va falloir qu'ils envoient toutes promener, qu'ils en choisissent une ou qu'ils en gardent qu'une. Il n'est pas question de baptiser quelqu'un qui était encore dans la polygamie. C'est pour ça que beaucoup de gens attendaient la mort pour être baptisés, parce qu'ils avaient des femmes ou des concubines. Il n'était pas question de renvoyer ces femmes et ces concubines chez elles sans la dot. Et comme les dotes étaient considérables, il fallait plusieurs années de travail pour payer la dot de chaque femme, ils ne pouvaient pas renvoyer leur femme. Et donc ils attendaient la mort pour se convertir, pour se être baptisés. Eh bien, lorsqu'on arrivait à avoir des chefs de tribu qui étaient vraiment convertis, à ce moment-là, la conversion du village allait très vite. Mais quand le chef de village était en union avec le sorcier, c'était très très difficile. Très très difficile. Et là, il y a eu plusieurs cas de martyrs, de catéchistes qui sont fait assassiner. Hein. Et puis, en plus, ces chefs de village avaient c'était monstrueux avant l'arrivée des missionnaires. Hein. Avec l'arrivée des missionnaires, par exemple, pour Mgr Lefebvre nous raconter, dans certains villages où il était encore sous le paganisme, le chef de village, pour certaines grandes cérémonies, il attrapait un adulte, par exemple. Hein? Ils attrapaient un adulte et puis il fallait l'offrir en sacrifice à leur dieu. Ils balançaient l'adulte dans la mer au crocodile. Hein. Oh. Ouais. Il y a les mêmes problèmes, on ne se rend pas compte de ce que c'est que le paganisme. Hein. Il y a les mêmes problèmes, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est au nord de l'Australie, près de l'Indonésie, un pays qui a été converti très tardivement au 19e siècle. Et c'était terrible, hein, parce que les moines missionnaires, j'ai lu les récits missionnaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est très très intéressant, mais c'est dur, parce que lorsqu'un enfant naissait dans ces peuplades autochtones qui étaient des païens complets, c'était des animistes qui adoraient les arbres, adoraient les faux dieux. Lorsqu'un enfant naissait, il devait être présenté au chef de village. Le chef de village examinait l'enfant sous toutes les coutures. Et soit il levait le pouce, l'enfant pouvait rester dans le village, et là il était sacré. Il venait membre du village. Soit le chef de village n'aimait pas le gamin, le bébé, baissait le pouce, les parents prenaient l'enfant et jetaient l'enfant dans l'enclos aux cochons. Les cochons mangeaient l'enfant vivant. C'est terrible! Terrible. Et plus ils mangeaient leur mort, il y a plusieurs récits où les missionnaires qui commençaient à convertir ces gens-là étaient obligés de sortir pour vomir tellement c'était dur. Quoi. Bon, on va arrêter là parce que ça fait plus d'une heure que je vous garde. Vous voyez, donc, je pense que c'est très important de bien comprendre toutes ces choses-là. D'accord ? D'où l'importance donc de cette formation des catéchistes. Donc attention, je répète, donc pas de cours dimanche mercredi prochain, c'est le jour de Noël. Donc je vais pas vérifier les dates, mais ça sera le 25 et 7. 25 et 7, ça fait combien? Ça fait 32. Ce doit être donc le 1er janvier. Pour mercredi 1er janvier, je crois que c'est le 1er janvier, c'est oui, ça. Oui, donc il y aura, 1er janvier, il y aura le prochain cours. Hein. Voilà, on va arrêter.
Si c'est le 1er janvier, c'est férié.
Oui, c'est férié, mais il y aura quand même le cours. Le cours, je peux le donner 1er janvier. Par contre, le jour de Noël, c'est impossible, à cause des messes. Ouais. Je peux pas, j'ai trois messes, je peux pas tout faire. On va terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.